Donc je remercie Sylvie Tomolilo et la bibliothèque de Lyon de m'avoir invitée à venir présenter mes photos. Je vais vous présenter donc, comme le disait Sylvie, deux séries d'images. La première, c'est une série que j'ai réalisée sur des couples franco-étrangers et la seconde sur des couples de femmes. En fait, ma démarche, elle a débuté par la rencontre avec un collectif qui s'appelle le collectif des amoureux au banc public et qui rassemble des couples franco-étrangers qui militent pour défendre le droit de mener une vie familiale sans entrave. Puisqu'en raison du durcissement constant des lois sur l'immigration et des pratiques administratives, ces couples rencontrent de nombreuses difficultés pour vivre en union libre, pour se marier, pour faire reconnaître un mariage qu'ils ont célébré à l'étranger en France. Et donc ils rencontrent de multiples obstacles pour obtenir un titre de séjour, ce qui provoque des séparations forcées, par des mesures d'expulsion, des situations de précarité, de clandestinité et des violations de l'intimité des couples, par exemple par des enquêtes de police abusives. Donc ce collectif, il a été créé en 2007. Il rassemble des femmes, des hommes qui ont décidé de faire entendre leur voix pour une amélioration de leurs conditions. Parce qu'ils refusent d'être systématiquement contrôlés ou suspectés. Mon idée, c'était vraiment de photographier les gens chez eux dans leur quotidien, puisque justement c'est cette intimité qu'ils revendiquent. Donc faire ces images, ça a été pour moi un moyen de les aider à défendre la liberté d'aimer la personne de leur choix et aussi de m'engager contre le durcissement des lois sur l'immigration. Dans le collectif, il y a beaucoup de nationalités différentes. Des gens qui viennent du Cameroun, de Syrie, du Pakistan, du Maroc, d'Algérie. Ben là, c'est un couple. C'est Fabienne et Ali. Ali est pakistanais et Fabienne est française. En fait, ils ont réussi à se marier, mais le préfet du Rhône a lancé une mesure d'expulsion envers Ali, car il doutait de la sincérité de leur mariage. Donc, d'après les juges administratifs, le délai de 6 mois de vie commune nécessaire à l'obtention d'un visa n'était pas respecté. Mais en fait, la préfecture n'a même pas soutenu cela, puisqu'il arrive de toute façon d'accorder des visas de longue durée à des couples fraîchement mariés, mais qui ont une vie commune depuis longtemps. En fait, ils ont le représentant du préfet a plaidé sur l'intimité du couple. Indiquant que les services ont douté devant leur union qui semblait précipitée et leur différence d'âge de 20 ans. Évidemment, leur mariage, ils étaient précipités vu que le visa d'Ali est expiré. S'ils ne se mariaient pas, ils étaient séparés. Ali repartait au Pakistan. Soit. Il y a eu une grande mobilisation autour de ce couple et je dirais fort heureusement, ils étaient très visibles et engagés dans la campagne de communication que ce collectif a lancée en juin dernier. Ali a réussi à obtenir un titre de séjour. Cette mobilisation qui a eu autour du couple se poursuit aujourd'hui pour tous. Il y a des pétitions, des soutiens d'élus, du monde du spectacle aussi, comme Mathilde Monnier ou Claire Denis, par exemple, d'artistes, de chanteurs. Et mes images ont servi pour sensibiliser le public lors de manifestations, de bals, de tables rondes avec des élus qui ont été organisées. En fait, ce travail a mis en exergue pour moi qu'un couple franco-étranger est taxé de suspicion par sa mixité, donc par son apparence, et que finalement c'est le même sentiment avec la différence d'âge, la différence de milieu social, la différence tout court. Donc je vais vous présenter l'autre série d'images, puisque en fait ce constat m'a renvoyé à mon propre vécu, puisque depuis mes 3 ans, j'ai grandi d'un côté dans une famille recomposée et de l'autre dans une famille homoparentale, puisque ma mère et son amie vivent ensemble depuis 27 ans aujourd'hui. Et en rencontrant les couples franco-étrangers, j'ai retrouvé des similitudes, des choses que j'avais pu percevoir consciemment ou non dans ma vie. Par exemple, le fait de vivre caché ou dans le non-dit, avec ses collègues, avec son voisinage, de ne pas avoir bien sûr accès aux mêmes droits, donc à la même reconnaissance du couple par la loi, mais aussi dans la société d'une manière plus générale, donc se sentir stigmatisé, différent pour les couples, mais aussi pour leurs enfants, puisque moi je suis née en 1978, donc à cette époque-là et encore aujourd'hui malheureusement. Je crois qu'il y a une absence de représentation de l'homosexualité accessible aux enfants ou aux adolescents, que ce soit dans les livres, dans les films pour enfants. On parle de prince charmant, jamais de princesse charmante. À ce sujet, il y a Elisa Mandel qui a édité une très belle BD en 2008 qui s'appelle « Princesse aime princesse ». Mais je crois que c'est encore des choses assez rares. Et puis aussi géographiquement, puisque moi j'ai grandi en Alsace, donc une région très conservatrice, et où quand même la première Gay Pride a eu lieu le 15 juin 2002. Donc pour dire que... Et aussi où la mairie UMP en 2001 avait demandé au magazine municipal Strasbourg Magazine de ne pas relayer les informations de manifestations des associations gays et lesbiennes de la région. Donc, bien sûr, quand j'y repense aujourd'hui, dans la bibliothèque chez moi, il y avait des écrits de Virginia Woolf, de Marguerite Yourcenar ou de Colette, mais à cette époque-là, ben, ces indices n'étaient pas significatifs pour moi. Donc j'ai décidé de commencer une autre série de photos sur des couples de femmes. Et j'avais l'impression, en fait, en commençant à travailler sur ce sujet, qu'il y avait une grande dissonance entre l'image des couples de femmes dans les médias, la publicité, même les conversations, les films, et le quotidien que moi j'avais vécu au sein d'une cellule homoparentale. Je pense à un essai de Stéphanie Hart qui reprend un peu tous ces préjugés. On les reconnaît facilement, ce sont des garçons manqués, les lesbiennes font fantasmer les hommes, c'est un choix féministe, elles n'ont pas trouvé le bon, etc. Donc dans toutes ces images galvaudées, j'avais le sentiment que la diversité que je connaissais n'était pas du tout représentée. Aussi une dissonance entre la représentation de l'homosexualité difficile, douloureuse, alors que moi j'ai eu une enfance très heureuse. Et donc j'ai décidé de poursuivre cette série d'images, toujours dans le quotidien, l'intime, le banal, l'ordinaire. J'avais envie d'une grande diversité dans les âges des femmes représentées et aussi dans leurs conditions sociales. Je voulais me demander un peu ce que c'était de vivre son homosexualité dans les années 70 et aujourd'hui. J'avais vu un documentaire très intéressant de Véronica Minder qui s'appelle Le bal des chats sauvages, qui suit comme ça des femmes de différentes générations, ou aussi la révolution du désir que Alessandro Avelis avait présenté ici l'année dernière, qui retrace l'évolution des mentalités par rapport à l'homosexualité et également l'avancée des droits de la communauté homosexuelle. La question de la communauté, justement, bah, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, mais moi, elle était inexistante dans mon quotidien. D'où l'idée aussi de passer hors du réseau associatif pour faire mes images. Donc l'idée, c'était qu'un couple me donne le nom d'un autre et que j'avance comme ça, que je chemine comme ça. Donc j'ai rencontré un premier couple à Marseille, puis ensuite ça s'est poursuivi à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Montpellier et à Genève. Et j'avais aussi envie qu'on sente les saisons, le temps qui passe. Donc c'est un projet que j'ai mené sur une année. Très vite, dans mes rencontres, les questions autour du couple se sont posées, puisqu'avec la photo, on fige aussi un état des lieux où, à un moment donné, donc ça nous pousse un peu à nous demander comment on considère le couple que l'on forme avec quelqu'un. Et j'ai trouvé des questions très transversales. Qu'est-ce qui fait couple? Comment on le réalise? Est-ce que c'est vivre ensemble ou non? Est-ce que c'est avoir des enfants ou pas? Vivre son amour de manière exclusive ou non? Finalement, quels sont les champs possibles pour une vie à deux, quoi? Être marié, paxé, que sais-je. En tout cas, il y a vraiment une transversalité dans ces questions qui m'intéressaient. Et aussi, sachant bien sûr que cette transversalité se complique par comment, quand on est un couple franco-étranger, comment vit-on son amour si on ne peut pas vivre sur le même territoire? Ou quand on est un couple de femmes, comment fait-on des enfants? La famille aussi est un sujet que l'on a partagé ensemble. Donc la question de la parentalité, de la force des liens qui nous unissent et qui font qu'on constitue une cellule familiale au-delà de liens biologiques. Donc c'est aujourd'hui ce sujet que j'explore, donc j'y travaille actuellement sur cette notion de famille. Et je voulais finir mon intervention en parlant des remarques que les couples m'ont données, les couples photographiés m'ont données en voyant les images. Elles me disaient qu'elles se découvraient aussi entre elles. D'autres qui sont comme moi me disaient l'une d'elles. Qu'elles avaient le sentiment donc que le spectateur avait un regard haute sur un univers qu'il connaît peu ou mal, même dans une communauté de couples mixtes ou homosexuels. Et qu'on avait l'impression de mettre finalement des images sur un sentiment plus que sur des couples homosexuels. Voilà ce que je voulais vous présenter et je voulais aussi remercier les couples qui ont accepté de participer à mon projet et vous inviter à un échange après la présentation de Florelle.